On va par là.
Oui. Ça n'a pas trop chaud. Sauf que c'est pas sec, même si c'est. Comme il est sur une lentille de sable.
J'ai bien arrivé à dire ce mot. Sucitacidophile, modérément poganophore. Pour ceux qui ne savent pas, ça devient barbu. Je suis tout surpris de voir quelqu'un l'aborder, et encore plus de voir quelqu'un lui offrir un repas reconstituant. Ce fut le début d'une longue et profonde amitié qui s'est manifestée les années suivantes par des visites régulières dans ce petit, petit appartement du square Fort-Royal. Dans un immeuble où cohabitait à l'époque le professeur Théodore Monod. Je dois à Pierre Seffer une dette de reconnaissance que j'ose exprimer publiquement. Pierre, tu as prononcé mon nom à la FAO en tant que spécialiste du régime alimentaire de la vivance sauvage, et en particulier de l'oris et de la dace. Ce fut une étape déterminante dans ma carrière scientifique. Cela, je ne l'oublie pas. Je saisis cette occasion pour te dire, Pierre, mais je pense que le professeur Yves Monnier ne va pas me contredire,
je ne sais pas où il est,
là, que tu trouveras dans 3 années l'hospitalité au laboratoire d'ethnobiologie. Pour ceux qui aiment les éléphants, voici un aspect de leur biologie pas tellement connu. Écoutez.
Il est de l'emmener avec eux. S'il n'y arrive pas, on assiste parfois à d'étonnantes cérémonies, à un rituel funéraire en quelque sorte. Et ça a été observé à plusieurs reprises. Les animaux, les éléphants vont casser des branches, ramasser toutes sortes d'objets, des pierres, de la terre, etc. Et ensevelissent en quelque sorte le cadavre de leur congénère. Il y a eu même un cas d'ailleurs assez extraordinaire où ils ont enseveli un être humain. C'est un chasseur de l'ex-Congo belge, l'actuel Zaïre, qui avait tiré sur un éléphant, qui l'avait blessé, et l'éléphant avait chargé, il l'avait projeté en l'air. Et il avait été, en tombant, donc ce chasseur avait perdu conscience. Les éléphants, en quelque sorte, l'ont considéré comme mort et l'ont enterré. L'ont recouvert de terre, de branchages, et quelques heures après, il s'est réveillé, c'était en quelque sorte dans la tombe. Dans la tombe, mais là, les éléphants.
Parmi l'assistance, nous avons le plaisir de compter une personne fort respectable qui a débarqué à Dakar en janvier 1946, il y a 43 ans, pour le compte de l'IFAN. Cette ethnologue éminente a fondé une mission permanente au Sénégal, à Sidibou et à Ethiopie. Permettez-moi, chère Madame Gessin, de saluer également la mémoire de Robert, dont le nom reste scellé aux Esquimaux du Groenland depuis les années 1934, 1935, 1936. Je saluerai un grand absent parmi nous, le professeur Jacques Carillon, qui a une santé qui est assez délicate à l'heure actuelle, puisqu'il s'apprête à subir une assez grave opération cardiaque, c'est-à-dire la pose d'une valvule, mitrale. Cette réunion, placée sous le sceau du souvenir, mais aussi de l'émotif, ne serait pas pleinement vécue sans évoquer la mémoire de quelques grands disparus qui ont été mes maîtres à penser. Je suis conscient de tout ce que je leur dois. Pour ne froisser la responsabilité des personnes, je les citerai par ordre alphabétique. le professeur Balasowski, ancien déporté, qui a régné en maître sur toute l'entomologie appliquée pendant un demi-siècle. Monsieur le professeur Berlioz, dans la faculté, qui s'exprimait en une langue d'une pureté qui faisait admiration de tout son entourage. Monsieur Berlioz, doué d'une mémoire phénoménale, était capable de reconnaître sur peau n'importe quelles espèces des 10 000 à 12 000 grandes espèces d'oiseaux vivant sur notre planète. Le professeur Dolphus, toujours prêt à raconter des anecdotes pittoresques et croustillantes. Monsieur Rogier, ancien déporté, un grand maître de la protection de la ville et de la mycologie. Nous lui devons, ne l'oublions pas, notre grande bibliothèque centrale du Muséum. Monsieur le professeur Georges Mangenot, mon directeur de thèse, un très grand enseignant qui fascinait son auditoire et a formé des générations de botanistes. Il est le fondateur de la station des Ogoudounés. Monsieur le professeur Paul Bessière, qui m'entoure une amitié depuis ma sortie de la maison. Sic transit gloriam. Quelques instants aussi pour rappeler une personne qui s'embrouille à lier l'efficacité, discrétion, mademoiselle Irène Maïsie. Je pense pouvoir exalter l'émotion qui nous étreint en faisant entendre quelques instants la voix d'un grand disparu, le professeur Pierre-Paul Grasset.
Ces fenêtres, oui. Eh bien, il faut que la mère vive auprès de lui, Bruno. C'est très important. Enfin, il faut faire l'action maternelle, ah, c'est très important. Écoutez, cela dit, Jean, nous observons chez les grands singes. J'ai eu l'avantage de créer en Afrique, au Gabon, une grande singerie. Et nous élevions des chimpanzés et nous élevions des gorilles. Et vous n'avez un bon élevage de chimpanzé ou un bon élevage de gorille que si vous donnez à cet animal une nourrice qui s'occupe exclusivement de lui. Si vous le laissez entre les mains d'une dizaine de soigneurs, il périclite et meurt. C'est une règle absolue. Donc pour l'enfant, de l'attention des grands câlins. Il faut qu'il y ait des liens d'affection.
Et maintenant, si j'ose abuser de votre patience, et je vais l'abuser, tant pis pour les remontrances, vous êtes un peu la pénitence. Nous allons évoquer quelques dates mémorables jalonnant l'histoire de notre laboratoire. 1921, création de notre laboratoire, chaire de production végétale coloniale, placée sous direction du professeur Auguste Chevalier, l'un des plus grands savants botanistes du XXe siècle. Ce Normand de la région de Falaise était doué d'une santé à toute épreuve, d'un solide appétit. À la fin de ce repas, il ne prenait carrément la moitié des trois quarts d'un camembert. Ce professeur, bravant toutes les fièvres qui ruinaient la santé de ses accompagnateurs, a fondé la RBA, devenue RBA, puis par la suite, face à bord, le JATVA. Je le revois encore traversant le jardin de son pas lent, le dos légèrement voûté, les mains derrière le dos, pour rejoindre son appartement au 5e étage du boulevard Saint-Marcel. En 1948, nomination du professeur Roland Porter à la direction du laboratoire d'agronomie coloniale, l'emportant de haute lutte sur le professeur Trochin. Jean-François Leroy, d'assistant, passe sous-directeur, et votre serviteur, arrive comme assistant en remplacement de J.F. Leroy. Le professeur Auguste Chevalier était un sacré personnage. Vers 9h du matin, il s'asseyait à sa table de travail et, indifférent au monde qui circulait autour de lui, il écrivait et les pages manuscrites s'accumulaient. Il recourait à sa prodigieuse mémoire, se faisant apporter de temps en temps quelques documents biographiques ou quelques liasses d'herbiers. Il remplissait ainsi, dans un certain temps, le quart, sinon la moitié, d'un numéro de la Eribéa. En ce temps-là, pendant les années 48, 49, 50, le laboratoire fonctionnait le samedi toute la journée. Georges Willem, ici présent, peut en apporter le témoignage. Georges, je vous salue comme serviteur, plaçant le sens du travail au-dessus de toute autre considération. Je tiens à vous rendre un hommage public et fervent pour tout ce que vous avez réalisé pour le laboratoire. Vous n'êtes pas un bricolo, mais un artisan, dans tout ce que ce terme a de noble, travail du bois, préparation en tout genre. Vous m'avez fait l'amitié de venir des Vichy exprès pour assister à cette séance. Je vous en remercie mille fois. Ouais. Décembre 1953, arrivée de Raymond Pujol au Muséum national d'histoire naturelle.
Prise en contre-jour.
26 novembre 1954, soutenance de la thèse de J.F. Leroy sur les juglandacées, à la recherche d'une conception morphologique de la fleur femelle et du fruit. Séance mémorable qui a connu des moments houleux. Elle est martelée par les remarques répétées du directeur Plante Folle. Monsieur Leroy, c'est moi le directeur ici. Et vous, vous êtes le candidat. Voilà, monsieur, je vous ai pendant le professeur Dolphus, assis, comme à son habitude, au premier rang, chuchotait à haut, il y a déjà me voir, monsieur Leroy, taisez-vous, monsieur Leroy, taisez-vous. Mars 1956, arrivée au laboratoire d'une charmante demoiselle, une charmante jeune fille, qui avait 22 ans à l'époque, et qui maintenant est grand-mère. Tout arrive. 1957, thèse de Jacques Parot, soutenu à Marseille, les plantes alimentaires de l'Océanie, origine, distribution, usage. Décembre 1965, arrivée de Jacques Barrault au laboratoire, qui est détaché en Nouvelle-Calédonie, mais qui nous revient en janvier 1971. Octobre 1965, à l'inspecteur, c'est vacataire au laboratoire. En 1971, assistant stagiaire. 10 mai 1968, soutenant de la tête de votre serviteur à 14h30 à Orsay, sous la présidence du professeur Théodore Mangenot, Georges Mangenot, et avec la participation de Théodore Renaud. Vers 16h, le tonnerre gronde, un orage éclate, la soirée se termine au laboratoire, assez avant dans la nuit. Certains invités s'endorment dans le train et arrivent chez eux. Je saisis cette occasion pour remercier Arlette qui, patiemment, pendant des semaines et des semaines, est gentillesse de taper ma tête. Septembre 1973, réunion du laboratoire à Lampons-sur-Orge. Mars 1974, décès du professeur Roland Panster, Jean-François Leroy a prononcé l'oraison funèbre. L'ensemble du laboratoire et l'ensemble du corps professoral étaient là pour rendre un dernier hommage au professeur bien-aimé. Professeur Roland Panster, vous êtes toujours parmi nous. 15 septembre 1975, il y a de cela 14 ans, nous réunissions ici à la Velette. Fabien Barrault allait naître 14 jours plus tard.
C'est rapide.
Arrivé à ce point de l'histoire du laboratoire, j'aimerais aborder un épisode, une phase difficile traversée par un laboratoire dans les années qui ont suivi la mort de ce porteur. À ce moment-là, il nous fut signifié par M. le professeur Lacombe, gérant, que la chaire d'ethnobotanique et d'éthosologie n'existait plus en tant que chaire et que le laboratoire était rattaché à l'ethnologie. L'avenir paraissait sombre et il l'aurait été sans la pugnacité de deux chercheurs enseignants ou enseignants-chercheurs, il y a des nuances, ici présents dans cette salle, mais pas passés l'un côté de l'autre. Cher Jacques Barrault, il est des vérités qui méritent d'être rappelées coram populo. Vous avez largement contribué à sauver le laboratoire en fondant et animant l'équipe de chercheurs. La tâche était rude et vous avez reçu l'aide éclairée de Madame Moriès qui a contribué à construire une bibliothèque qui n'a rien à envier avec n'importe quelle autre bibliothèque de n'importe quel laboratoire du Muséum. Cher Raymond Pujol, j'unis ma voix à celle de Serge Baluchet, d'Anne-Marie Brisbard, de Bernadette Lizet, de Philippe Marchenet, de Luc Soro, pour te dire tout ce que nous te devons. Ces chercheurs volent maintenant de leurs propres ailes. Mais ils n'oublient pas le nid douillet que tu as tissé pour eux. Les chiens aboient, la caravane passe. Mars 1982, soutenance de la thèse de Claudine Berthe Friedberg, l'une des premières d'ethnosciences, sinon la première en France. MOOC Google Nord, la chevelure de la terre, les bunas de Timor et les plantes alimentaires, mettons, sous la direction du professeur André Georges Audricourt. 1857 pages. Qui dit mieux? Il arrive un moment, chers amis I et chers amis IES, où le frêle esquif aborde la rive pour jeter les amarres et s'immobiliser. Le passager prend pied sur la terre ferme. Il jette un regard vers l'embarcation avec l'envie de repartir. Il fait un pas. Il hésite. C'est le crépuscule. Les ondes s'allongent. Une citation. Heure grave où le voyageur, riche de plus de souvenirs que d'espoir, se retourne pour tenter discerner le chemin parcouru. Page 372. Le moment est solennel. Derrière la quête des échantillons, la compulsion des herbiers, l'exploration des structures microscopiques, les publications, les rapports d'émission. Devant l'automne qui s'annonce dans 14 jours, les hirondelles s'alignent sur les fils électriques, s'apprêtant à partir pour un long et périlleux voyage. Mais la vie ne nous abandonne pas. Les bourgeons de colchicum autumnalé, de Scylla autumnalis, de gentiana large américa, de linosiris sans vulgaris sont prêts à s'ouvrir. Les chatons mâles du noisetier, déjà pendants sur les rameaux, attendent les premiers rayons de la fin de l'hiver pour s'épanouir. Christian, voici les chatons mâles préformés du noisetier. les criquets du Sahel sont vêtus. Les quatriers de l'Arabie donnent leurs fruits. Le sphinx du Liseron visite les fleurs de Catharanthus roseus, etc. Vert est l'arbre de vie, Goethe. La flamme peut s'éteindre, mais pas la vie. L'avenir appartient à notre laboratoire. Oh oui, l'avenir appartient à notre laboratoire. Je salue les générations montantes, et en premier lieu, Claudine Berthe. Ah, Claudine. Gentiment. Sans aucune espèce de rancœur. Que, quelquefois, par des réflexions inopportunes, je vais trouver mon sommeil. Ô péché de jeunesse. Maintenant, nous voilà sur le point d'être chargés de responsabilités accrues au sein de ce laboratoire. Je prends mon courage à deux mains, mais je connais votre mansuétude, votre sens du social, du partage, qualité qui vous honore, pour vous exhorter d'être à l'écoute des autres, de tenir compte des petits problèmes de chacun. Il est des âmes sensibles dans ce laboratoire. Excusez-moi pour ces paroles qui, je m'en suis aperçu, sont arrangées maintenant dans le placard des souvenirs. Car depuis le retour des vacances, il règne ce laboratoire, une atmosphère résolument détendue. À Marchenay, à Benalbizet, à Luxoro, je ne l'ai pas, parce que le temps commence à presser. Et je suis heureux ici de placer au tableau d'honneur les noms des humbles mais dévoués serviteurs. Louisette, Guylaine, Marie-Paul, Véronique, Monique Lerne, toujours là pour assurer la gestion quotidienne sans laquelle le laboratoire ne pourrait pas vivre et les chercheurs travaillent. Et aussi, un petit supplément en faveur de la douce Chantal à laquelle je dois, je crois savoir, un souvenir musical. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns parmi vous sont là. Leur présence prend en ce jour un grand relief. Hommage aux dames, à Françoise, qui a élevé, soigné, dorloté pendant 23 ans un serval que j'avais ramené du Tchad. À Michèle Aubert, la douce maman, non seulement de Frédéric, mais de Jacob, Néron, d'un brochet, de pipistrelles, de grenouilles sud-américaines, et j'en passe, et des meilleurs. À Madame Garzou, c'est quoi qui s'ouvre. Bienvenue aussi à Marc Gallois, le si dynamique directeur de la SNPL. À Christian Joannin, le fidèle parmi les fidèles, une amitié de 40 ans, cela compte. Alain Ferrer, ancien directeur des jardins Marie-Apostole à Saint-Jean-Cap-Ferrat. À M. Opic, l'artiste de l'Orson. Je sais, j'en passe, tous ceux qui ne sont pas cités. Et j'en arrive au 5 mai 1986, où le professeur Yves Monnier est intronisé au laboratoire Saint-Auguste Chevalier. En ce jour, ce 7 septembre 1989, voyez, cher monsieur Monnier, vous pouvez le constater, peu de laboratoires au muséum peuvent se prévaloir de cet esprit de solidarité. Je prononcerai même le terme de convivialité, qui est celui qui règne aujourd'hui et qui nous baigne. Et cela est extramuros. Vous avez autour de vous la totalité des laboratoires, sauf M. et Mme Marchenet qui sont excusés. Notre laboratoire reçoit ici
dans un cadre où la nature est à l'honneur, la consécration des plus illustres et des plus anciens de notre muséum. Le dieu du muséum, Théodore Monod. Le doyen de notre assistance, monsieur Jauvet. Madame Jauvet, que j'ose qualifier de Marguerite Yourcenar du muséum. Notre laboratoire est engagé dans de grands projets d'avenir. L'aménagement du jardin exotique de Monaco, l'exposition du bois, la cure de rajeunissement du jardin. Le savant, disait Claude Lévi-Strauss, n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Tous ensemble réunis, M. Monnier, nous les poserons. Point final.
Je serai extrêmement bref, d'abord parce que je crois qu'il n'y a rien à ajouter au propos de M. Gillet, rien du tout. Et d'autre part, je pense que je n'ai pas le droit de voler une minute de cette journée qui n'appartient qu'à M. Gillet. Cependant, je dirais un tout petit mot pour souligner l'adéquation complète du propos, du personnage, du cadre. Tout ça correspond bien à l'idée qu'on s'est toujours fait de M. Gillet. On y retrouve sa gentillesse, sa sensibilité, cette intelligence des êtres, cette façon de parler aux gens, aux hommes, aussi aux animaux, parce qu'il parle aussi aux renards le soir. Et simplement, je voudrais dire que je suis vraiment très heureux d'être ici, chez lui et autour de vous tous. Et j'espère que la conclusion de M. Gillet trouvera très rapidement une sorte de concrétisation, de matérialisation. Merci. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que nous fêtons évidemment le départ de M. Gillet, mais Dieu merci, M. Gillet ne part pas, il restera avec nous, chez nous, parmi nous, et il continuera à faire comme par le passé, à régler discrètement mais efficacement un certain nombre de petits problèmes, car son action au laboratoire est essentielle. Je n'oublie pas non plus que M. Gillet m'a reçu dans cette maison et a permis mon intégration dans de bonnes conditions. Mais encore une fois, je crois que M. Gillet viendra encore longtemps parmi nous pour savoir dire le mot qu'il faut, à qui il faut, quand il faut. Merci.
Hubert me donne la parole. Écoutez, je crois que la seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il est un type formidable. Et lui dire combien nous l'aimons tous depuis des années et comme nous sommes heureux d'être là et j'espère encore nous le serons longtemps ensemble.
Monsieur Fosor, voulez-vous clore cette petite exposée et annoncer la petite surprise que vous nous réservez?
Je n'étais pas préparé à prendre la parole au cours de cette cérémonie. Mais enfin, puisque mon ami Gillet peut bien me la donner, je la prends. Je serai très bref. D'abord, bien entendu, pour exprimer l'amitié, la reconnaissance de tous ceux qui se trouvent ici envers Hubert Gillet, que nous connaissons depuis longtemps, la plupart d'entre nous. Je ne sais pas si nous avons chronométré le nombre d'années au cours desquelles nous avons Nous sommes trouvés côte à côte dans ce, au Jardin des Plantes. Je crois que c'est au moment de votre premier départ avec Roland Sperger que nous avons fait connaissance. Vous connaissez quelqu'un pour accompagner un zoologiste allemand, Sarah, et les jours-là, comme disait l'indicateur des chemins de fer, vous voyez. Et puis depuis, alors, ça a été pour vous l'occasion de découvrir non seulement le désert, mais les marges méridionales du désert, ce que nous appelons volontiers actuellement le Sahel. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que le Sahel en arabe, ça signifie, quand on est à Tombouctou, ça veut dire simplement le nord. Et je me demande si quand Chevalier est arrivé à Tombouctou, il a dû lui demander à quelqu'un qu'est-ce que ça s'appelle là, en regardant vers le nord. Et l'autre a dit, c'est le Sahel. Croyant qu'on lui demandait pour la direction astronomique. Sahel, ça veut dire le... Je sais bien que ailleurs, ça veut dire autre chose. Mais dans le Sahara occidental et central, le Sahel, c'était simplement le nord. Le vent du nord, c'est Saheli. Le vent du nord, Saheli. Etc. Enfin, peu importe. Ensuite, il y a eu l'Indy, naturellement, pour l'ami Gillet, avec la découverte d'un district sahélien. Oui, c'est encore vraiment sahélien, à cause de la végétation des ouèdes, des énéries. La limite, pour moi, la limite du désert proprement dit dans cette région-là, c'est vraiment le nord du plateau de l'Indi, qui est un plateau rocheux, et l'arrivée dans la dépression du Mourdi, qui est une dépression sablonneuse. Là, dès cette limite-là, on tombe sur le Gornulaka, Monacanta, le Sipagrostis, qu'on appelait jusqu'à présent Pingin, ce qui est peut-être vulnérance, etc., etc. On arrive vraiment dans le Sahara. Et d'ailleurs, les singes patas que j'ai observés dans le nord de l'Indi arrivent eux aussi jusqu'à la limite de ces dunes. Ou alors ils sont plus très à leur place, bien sûr. Il n'y a plus de guelta, il n'y a plus de gomme d'acacia, etc. Je crois que c'est là à peu près que doit situer la limite entre l'Indi et le Sahara. Mais votre Indi est très bien, il est très intéressant, il est très, très infiltré encore d'éléments méridionaux, soudaniens, etc., etc. Vous avez même cité dans l'Indi un Koudou, un Saxicéros, qui est une appelle, pas précisément une bezzarienne. Il y a un pangolin dans le sud de l'Indi. Il y a... Comment s'appelle ce curieux crapaud que... Apporter de l'Indi.
Buffo, c'est quelqu'un.
Non, pas du tout. Un groupe tout à fait spécial. Oh, tout le monde le connaît. Ça a servi pendant longtemps à faire des tests de grossesse en
Europe. Xenopus.
Xenopus. Xenopus. Mulleri. Xenopus Mulleri. Encore très abondant sur cette guetta qui dégage un mucilage prodigieux. Si vous mettez le bocal est plein de. Pas de mucilage au bout de quelques instants. Bon, et c'est très bien votre Indi, c'est très intéressant, la flore est riche, vous avez fait beaucoup d'observations biologiques, mais comme je vous l'ai dit le jour de la soutenance, pour y définir et y décrire une zonation altitudinale, il faudrait 500 mètres de plus.
Ah ouais.
500 mètres de plus, votre Indi, il n'est pas assez haut, au Tibesti. Au Tibesti, c'est beaucoup mieux, ça va à 3415 mètres. Au bord de l'Emitoussi, alors là, il y a des tranches. On peut y aller. Mais enfin, c'est très bien comme ça. Puisque c'est comme ça. Alors, vous avez fait l'historique de ce célèbre laboratoire que j'ai bien connu depuis fort longtemps, puisque moi, j'étais dans celui d'à côté, comme assistant, chez Gruvel. Ça s'appelait le pêche et production coloniale d'origine animale. C'est un long titre, ça. C'est-à-dire que c'était non seulement les poissons, les crustacés comestibles, les mollusques, mais bien d'autres choses, y compris l'ivoire, ce malheureux ivoire dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'on essaie de sauver les derniers éléphants d'Afrique. L'ami Pfeffer s'y donne corps et bien, et il n'est pas encore très certain d'obtenir satisfaction tant la réaction d'un certain nombre de, non seulement de commerçants qui travaillent l'ivoire au Japon ou aux Indes est forte, mais tant est forte également la résistance de pays africains, situés d'ailleurs la plupart d'entre eux dans l'Afrique australe. Non seulement l'Afrique du Sud, mais le Botswana, et le Zimbabwe, etc., restent fortement en faveur de la ne pas modifier la situation légale de l'éléphant d'Afrique, c'est-à-dire de le laisser dans l'annexe 2 de la Convention de Washington, et non pas de le faire passer dans l'annexe 1, ce qui mettrait fin au commerce international de l'ivoire qui est en train de menacer l'existence de cet admirable animal qui est unique au monde, etc. On défend les baleines, il faut aussi défendre, bien entendu, les éléphants. Et Sud-Afrique est particulièrement menacée actuellement. L'ami Pfeffer vous dira que si dans 5 ans on n'a pas abouti sur le plan international, ce sera fini, il n'y aura plus d'éléphants. Il y a déjà pratiquement plus de rhinocéros, mais à ce moment-là, il n'y aura plus non plus d'éléphants. Je peux t'avouer que c'est dommage. Bien, l'historique du laboratoire, ça a intéressé beaucoup de nos collègues et amis ici présents, bien entendu. Vous avez fait ça avec beaucoup de vivacité et de précision en même temps. Vous êtes un très historien de l'histoire de ce laboratoire. Et puis, voilà, vous avez commencé votre intervention par une espèce d'hymne à un vieux personnage, un vieil homme qui navigue encore dans les déserts. C'était très touchant. Je sais l'intérêt que vous portez à un certain nombre de mes écrits, etc. Mais en public, enfin, il faut... C'est excessif. Chacun a assez. C'est charisme, comme on peut dire, c'est qualité ou c'est défaut, parce que l'un et l'autre se dit ou se disent. Et chacun est responsable, naturellement, de la façon dont il a tenté de conduire son existence dans différents domaines. Alors, je vais... qu'est-ce que vous avez dit à la fin? Quelque chose de bizarre, une allusion à...
Claude Lévi-Strauss.
Non, vous m'avez dit que je vous donne la parole parce que vous allez annoncer je ne sais quoi. Qu'est-ce que je vais annoncer?
Rien.
Non, monsieur. Alors voilà. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on va le faire, mais enfin.
Si.
J'ai apporté quelques spécimens d'industrie préhistorique. Il y en a très peu. Parce que je voudrais vous raconter quelque chose au sujet de l'évolution de ces techniques. On pourra faire ça dehors, assis sur l'herbe. Et également à propos de la notion de la durée et du temps écoulé. Lamarck disait qu'avec le temps, tout devient possible dans le monde, dans la nature. Et il ajoutait la nature, en parlant du temps, la nature n'en manque jamais. C'est très vrai, et c'est une notion que nous, pucerons éphémères, avons beaucoup de peine à assimiler. Nous ne comprenons pas comment une île océanique, volcanique, surgit des flots, peut se trouver au bout de quelques millions d'années couverte d'arbres et d'animaux, pas n'importe lesquels, bien sûr. Alors je voudrais vous dire un mot de cela, à propos en particulier d'un biface que j'ai rapporté du désert libique. Et puis si nous avons le temps, si vous n'en avez pas assez de mes bavardages, je voudrais vous montrer une devinette musulmane. C'est une devinette qui porte sur un naufrage de bateau. Il y a 30 passagers, dont 15 sont des crottes, c'est-à-dire des mécréants, des chrétiens, et 15 sont des bâtonnets. Et alors, il va falloir sauver ce bateau. Il y a une façon de disposer les passagers à bord du bateau. C'est très amusant. On fera ça sur le sable avec les... J'ai apporté les crottes, d'ailleurs. J'ai les crottes de chameau, là. Hein. Voilà. Bon. Merci.
Par une porte resplendissante. Recevoir un présent de tous ceux, de vous tous, celui que je souhaitais le plus ardemment est un don du ciel, un don de la providence. Et je ne peux que conclure pour vous dire que, à l'image de quelqu'un que je vénère, j'ai été quand même un homme scandaleusement comblé, ayant eu le rare bonheur de voir son état et vocation se confondre.
J'aurais vénéré pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment...
Bon, alors j'espère que cette machine... comblera vos oreilles de mélomane.
Bon.
Voilà. Et d'autre part, vous aviez manifesté le désir que cette journée reste dans les annales. Nous avons fait, pas vraiment un livre d'or, mais préparé quelque chose qui soit un peu personnalisé et vous reconnaîtrez la pâte de pâte.
C'est magnifique.
Voilà. Tout le monde est invité à...
Mais après, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai même pas
de... Mais non, pour ceux qui sont derrière.
Je pensais comme vous.
Entre les deux, un petit coup de...
C'était Voltaire. Tu te rends compte, il y en a qui voulaient du donner du Préfontaine.
Authentique, hein.
Ah, ça va être très bien, il y avait
des crottes de chameau,
le seul combustible qui existe, ce sont les crottes. Oui.
Et à partir de là, alors c'est la répartition, puis après, il faut les mettre pour...
On est là. Voilà, on est là, la moitié. On est la moitié.
On fera une vérification après.
Bon, ok. Bon. Alors on continue.
Un bâton.
Passe-moi deux crottes.
Deux petites crottes.
Non, il y a des textes mnémotechniques pour se rappeler.
On se connaît.
Ah oui.
Texte en vert d'ailleurs, en arabe. J'ai deux versions différentes.
Ah non, le point de départ, il est pas. Voilà.
Il y a encore. Oui.
Voilà. Il y a encore une crotte.
Une crotte. Voilà. Ça y est.
Ah. Et là, le point de départ, il est là.
Le point de départ ici.
Ça commence par quatre bâtons.
Oui, quatre bâtons, monsieur.
Alors, récapituler maintenant. Regardez, quatre bâtons.
Trois bâtons.
Oui.
Oui. Une crotte. Une. Deux, un bâton.
Deux crottes,
deux bâtons, trois crottes, un bâton, deux crottes, deux bâtons et une crotte.
Je vais vous expliquer, il s'agit d'une devinette musulmane, très connue dans le monde arabique, qui concerne une histoire de naufrage. C'est un bateau, c'est théorique. Sur ce bateau, il y a 30 passagers, dont 30 sont des croyants, des vrais croyants, et 30 sont des koufars.
15 et 15.
Les mécréants, les deux fois 15. Il y a 15 bâtonnets et 15 crottes.
Voilà.
Les chrétiens sont les crottes, les bâtonnets sont les musulmans. Alors, ce bateau va se trouver en perdition sur la mer, il va falloir l'alléger. On va se débarrasser d'un certain nombre de voyageurs. En les passant par-dessus bord, spontanément ou non. Alors, le commandant du bateau, qui fait partie des 15 musulmans, discute avec les voyageurs. Et finalement, on arrive à un arrangement. Alors, je signale aussi que ce qui est très important dans ce jeu,
C'est un gain de point, un jeu et une devinette. C'est de connaître la disposition, naturellement, des crottes et des bâtons. Sans ça, c'est pas drôle, ça tombe mal. Alors, il y a des textes en arabe, en vers d'ailleurs, des textes mnémotechniques qui vous disent il faut une crotte, trois bâtons, deux crottes, un bâton, etc. Alors, les textes écrits. Je les ai, mais je voulais. Bon, alors on négocie avec le commandant, on négocie avec les passagers. Alors à la fois crotte et bâtonnet, à côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9e, on l'enlève du jeu, on le met à côté. Ah, bien. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Ah, non, très fort,
Dieu l'a voulu.
Inch'Allah.
Il y a trop de choses.
Encore quelques
chrétiens. Plus beaucoup.
Oui, plus beaucoup. Je vais recommencer à s'inquiéter.
Il n'en reste plus qu'un.
Là.
Ouais. 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 Ouais.
Est-ce qu'on s'arrête ou non?
Non, mais juste à venir. On a éliminé 15 personnes, il en reste 15. C'est un jeu.
Déjà, on s'est fait gagner.
Ce que j'ai jamais compris, c'est les grands.
Qu'est-ce que ce biface a d'intéressant? Le biface en soi, c'est pas intéressant, il y en a partout. Dans l'ancien monde, il y en a partout. L'Afrique en est couverte, l'Europe en a beaucoup.
Merci, monsieur, vous avez permis de gagner.
Vous êtes reçu.
Qu'avez-vous gagné, monsieur?
Reçu à l'examen de septembre.
Si vous regardez le biface, vous verrez qu'un côté est poli par le... Il était parti, il était...
Un côté est poli et l'autre il est brut.
Au sud de la mer de sable d'Égypte, entre deux cordons de dunes, il y avait un règne interdunaire couvert de biface. Alors, si vous regardez bien, vous avez.
Nulle part, vraiment.